explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. C'est l'histoire d'une femme qui avait décidé d'être libre. Libre de parcourir le monde seule sur sa moto. Libre de se rendre dans des pays qu'on ne lui recommandait pas. Libre d'aller à la rencontre d'autres femmes pour leur demander ce que pour elle signifie le mot liberté. Avec sa moto, Mélusine Malander a emprunté les routes persanes, traversant l'Asie centrale, le Kurdistan et l'Iran. Elle a suivi les pistes d'Afrique, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Elle a parcouru les routes de l'Asie du Sud en passant par le Bangladesh ou encore la Birmanie. Des dizaines de milliers de kilomètres en solitaire, une cinquantaine de pays traversés, d'innombrables rencontres. Et cette unique question qui revient comme un leitmotiv tout au long de ses voyages, pour vous, c'est quoi la liberté? Cette simple question, suivant le contexte, le pays ou l'interlocuteur, suscite une infinité de réactions. De la joie, de l'espoir, des regrets, un silence et parfois une larme. Des rencontres que Mélusine Malander raconte dans un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Robert Laffont, intitulé « Les voies de la liberté ». À cette occasion, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions faite en sa compagnie, diffusée pour la première fois le 23 juillet 2018.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Pas facile. J'avance à 30 à l'heure. La frontière est à 40 km. Autant dire que je vais mettre un petit bout de temps. Que je vais être... bien fatigué à la fin de la journée.
Allez, hop, on y va.
Bonjour, Mélusine Malander.
Bonjour.
Alors, nous voilà partis avec vous sur les routes du monde à moto. Pourquoi avoir choisi cette monture pour voyager?
Parce que c'était ce que j'avais quand j'ai commencé. C'était vraiment c'était mon véhicule de cœur et moi, je suis motarde. Et l'histoire a commencé avec ma 125, quand après plusieurs années de bons et loyaux services, cette moto était sur la fin. Mon garagiste me disait faut la mettre à la casse. Et moi, c'était hors de question. Et j'avais envie de voyager, de partir sur les routes. Et on a fait un premier grand voyage, elle et moi. Et ouais. C'était le dernier pour elle.
Ouais. Jusqu'à Vladivostok. Hein.
Jusqu'à Vladivostok.
On va avoir l'occasion d'en parler, de ce premier grand voyage en solitaire. Alors, la moto, c'est votre moyen de locomotion de prédilection. C'est aussi un instrument de liberté incroyable et ça suscite la curiosité. Partout où vous allez, on vous regarde.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la moto, c'est vraiment un vecteur de rencontre. On voit la moto, les gens se posent la question, où tu vas, d'où tu viens. Et puis en plus, le fait d'être une femme toute seule, tu vis la question, mais t'es toute seule.
Ouais, ouais, ouais.
Et t'as pas de mari, t'as pas d'amis. Mais la moto, c'est vraiment, moi j'adore parce qu'on ressent tout. On sent l'air, on sent l'atmosphère, et puis on est en contact direct avec les gens.
Et le vélo ne vous a jamais tenté?
Ah, je suis trop paresseuse. Non.
Mais c'est un peu le même rapport qu'on a à la route, aux gens, on a la tête à l'air, quoi, hein, quand
c'est
on
ça.
Roule.
Ouais. C'est assez proche.
Et en tout cas, vous n'êtes pas insensible à la question qui doit souvent venir, hein, quand on vous rencontre, à la fois du bruit, de la pollution que soulève forcément le mode de transport motorisé, puisque dans les futurs projets, mais on aura l'occasion d'en reparler, hein, en fin d'émission, il y a cette moto qui roule à l'hydrogène et au solaire.
Oui, et ça, c'est un de mes projets, effectivement, à force de rouler en moto. Pour moi, la liberté ultime serait de pouvoir justement passer de tout carburant et de rouler vraiment à l'infini. Ouais,
indéfiniment. On aura l'occasion d'y revenir à ce projet un peu incroyable, assez pionnier dans le genre. Alors déjà, avant de s'élancer seul sur les routes, déjà, il faut oser partir, oser l'expédition, oser le grand voyage. Et pour vous, la première expédition d'importante, ça n'a pas été seul, et ça n'a pas été à moto d'ailleurs, hein, à pied et en canoë-kayak pendant 6 mois en Patagonie.
Avec Christian Clot, oui, on est parti 6 mois, c'était pour moi la grande école de l'aventure. Et oui, on est parti à deux, c'était vraiment fantastique, là, vraiment la nature, et j'ai appris tout le béaba, entre guillemets, pour me débrouiller toute seule.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris en Patagonie?
Déjà.
C'est si compliqué que ça? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement?
On apprend qu'on peut faire. Donc on apprend à aller au-delà de ses limites, qu'on a beaucoup de ressources en soi. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même.
Après ce baptême du feu, ce voyage initiatique, en quelque sorte, vous saviez que vous étiez prête à repartir, que vous aviez envie de repartir, mais cette fois-ci de repartir seule.
Oui, ça a été une évidence. J'avais plus envie de forcément suivre quelqu'un. Ouais. J'avais envie de construire ma propre route et la conjugaison en fait de cette volonté de partir seule et cette moto qui était délabrée, ouais. C'était une évidence.
Mais alors une évidence pour vous, mais pas forcément pour votre entourage. Hein. Donc là, on est au premier voyage, grand voyage, seul à moto. Il s'agit de partir de Paris et de rejoindre Vladivostok en passant par la steppe mongole. Enfin, on voit la distance à parcourir, hein, parce que Vladivostok, c'est vraiment l'extrême est de la Russie, donc ça en fait des kilomètres entre Paris et Vladivostok.
On me le déconseille fortement, on me prend pour une folle. Et puis après, le but aussi, c'était pas Vladivostok. Le but, c'était Japon, parce que la moto était d'origine japonaise.
Ah oui. Enfin, retour à la maison.
Et c'était ça, le but. Oui. J'avais envie de donner la moto, à la ramener. C'était un peu le cimetière des Varadero, quoi.
Ouais.
Et tout en sachant que peut-être ça allait s'arrêter avant.
Ouais.
Sans certitude.
Comment on se prépare justement à affronter l'inconnu ? Il y a certainement des appréhensions. On veut partir seul, mais en même temps, est-ce qu'on en sera capable de faire face à toutes les situations ? Comment on se prépare à ça ?
Je crois que sur ce voyage, je me suis préparée en ne me posant absolument aucune question.
Ouais.
Pour justement pas qu'il y ait des questions qui amènent des réponses qui disent « Ah mais non, c'est peut-être pas une super idée, ça va être très dangereux, comment tu vas faire ? Comment tu vas camper ?» Je suis partie vraiment de manière « Allez, j'y vais, pourquoi pas, on y va ».
Et alors, quelles images fortes vous gardez de ce premier grand voyage seul ?
Je crois que la solitude, que ça a été très difficile au début, parce que je me suis heurtée du coup à la réalité, puisque entre le rêve, on se dit « Ouais, ça va être génial !» et puis la réalité où on se retrouve vraiment seul et il faut faire les choses et avancer. Et à la fois, il y a eu des rencontres, c'est vraiment en Ukraine, il y a eu plusieurs kilomètres qui ont été un peu laborieux, la moto allait pas, moi j'allais pas, j'étais pas bien, et puis après je me suis mis à rencontrer des gens, et là ça s'est débloqué parce que je pense que moi-même j'étais mieux dans ma peau et mieux à même d'aller à la rencontre.
Et puis il y a la steppe mongole, cette immensité, alors il n'y a plus de route du tout, il n'y a plus personne, vous êtes seul au monde et vous découvrez une liberté infinie, vous êtes à l'aise.
Ah oui, et c'est la liberté totale en soi déjà, parce que j'arrive en Mongolie alors que c'était pas forcément prévu, enfin, même si on l'a rêvé, c'est un achèvement. Et puis on découvre un pays qui n'a pas de feu, qui n'a pas de sens unique. Pour aller à un village, les gens disent pas tu vas à gauche, ensuite à droite, ensuite tu vas au supermarché, et puis voilà. Ils disent non, tu vas dans cette direction, cap à l'est, tout droit. On va aller voir des gens, faut pas aller sur la route, faut aller tracer à travers la steppe, c'est complètement fou. Déboussolant et grisant.
Ouais. Alors des moments de grâce, il y en a eu, c'est certain, mais des moments de découragement aussi.
Je suis au milieu nulle part, je me suis plantée, la pluie arrive, il faut vraiment que je me grouille pour la relever. Je vais rien casser, quoi. C'était ridicule. J'étais trop vite et j'ai voulu ralentir. Et j'ai senti le pneu arrière faire comme ça. Donc je me suis dit, je vais tout droit. C'est stupide. Je viens de là et il y avait vraiment le virage. Et là, j'ai vraiment tapé dedans, quoi. J'espère qu'elle démarre. Sinon, je suis vraiment mal, quoi. C'est la merde.
Mélusine Malander, le vent, la pluie, seul au monde au milieu de nulle part, cette moto hyper lourde qui a chuté, qu'il faut redresser toute seule. On sent l'épuisement, on sent un petit peu le désespoir. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de tout plaquer, on se demande ce qu'on fait là ?
Oui, totalement. Ouais. On se dit qu'on est complètement fou et... ouais, débile d'avoir été dans ce lieu-là. Mais souvent, je trouve que ces moments-là, ils sont associés par des beaux moments juste après. Qui rattrapent tout et qui font que finalement, c'est des choses dont on se rappelle, mais avec presque bonheur.
Ouais. Ce qui m'étonne, parce qu'on l'a compris avec les extraits qu'on entend, vous avez fait plusieurs films dans la série « Ne te dégonfle pas hein, », c'est le titre de cette série de films que vous avez fait pour la chaîne Voyage. Dans ces moments très difficiles, où on sent que vous ne jouez pas la comédie, vous êtes au bord des larmes, vous n'en pouvez plus, vous êtes exténué, vous trouvez encore la force d'allumer la caméra. Alors, c'est presque une façon de se confier, ça vous raccroche à quelque chose, ça aide à tenir le coup, cette caméra?
Exactement, c'est assez thérapeutique. Ouais. On est vraiment seul, finalement, la caméra, c'est la seule personne à qui on va pouvoir parler, pouvoir sortir justement toutes ces émotions, toutes ces tristesses, toute cette rage. Et grâce à elle, ça permet d'extérioriser et puis de passer à autre chose, en fait. Ouais. Parce qu'une fois que c'est sorti, on se concentre, allez, la moto, elle est tombée, ok, je suis toute seule. C'est vrai, il va pleuvoir. Bon, maintenant, on agit. Ouais. Et ça aide énormément.
Donc, vous arrivez jusqu'au bout, jusqu'à Vladivostok, puis le Japon, dans quel état vous étiez après ces 4 mois de traversée ?
4 mois, oui, 22 500 km. La moto va rester à Vladivostok. Ouais. Elle va suivre. On a un dernier choc, et puis là, ce sera la fin. Elle va rester là-bas, et moi, je vais continuer mon voyage au Japon.
Au Japon, sans elle.
Sans elle, donc elle est toujours là-bas.
C'est un déchirement, hein, quand vous abandonnez cette moto, il y a un vrai lien qui se noue entre vous et cet engin.
Totalement, c'est une compagne, c'est vraiment mon amie. J'ai partagé déjà, elle m'a accompagnée dans ma vie de jeune adulte. Ouais. Et puis ensuite, ce voyage, c'est une façon de lui dire au revoir. Effectivement, je dis au revoir à moi. Même si je sais que ça reste, c'est un objet, c'est un véhicule, mais voilà, pour moi, elle avait une âme.
Oui, mais rien que quand vous en parlez, il y a l'œil qui se met à briller. On sent que l'émotion n'est pas loin. Après ce premier voyage en solo, vous n'avez qu'une envie, c'est de recommencer. Ça y est, vous avez trouvé votre voie.
C'est ça, oui, c'est vraiment addictif. J'ai envie de repartir. J'ai été au bout de moi, mais en même temps, j'ai envie de continuer. Je vois que la moto, c'est une manière géniale d'aller voyager, de parcourir le monde, et j'ai envie de continuer.
Et c'est là que l'Iran va vous donner envie de vous intéresser d'un peu plus près à la liberté, au vent que vous rencontrez.
Oui, ça m'a permis de me rendre compte que la liberté, c'est pas... Enfin, nous, on vient d'un pays où on a la liberté, c'est marqué sur nos frontons d'école, sur nos mairies. On la connaît, on a l'impression de la connaître. Et on est assez prompt à juger ce que peut être la liberté ailleurs. Et là, en allant en Iran, je me suis rendu compte que c'était plein de choses, la liberté, de plein de manières. Oui. On associe chez nous le voile à quelque chose qui est d'oppressant. Et même si c'est imposé par le gouvernement en Iran, en fait, les femmes trouvent un autre moyen de liberté. Mmh. Et pour elles, c'est pas forcément ce combat-là qui est le plus important. Il y a d'autres manières, d'autres choses sur lesquelles elles sont beaucoup plus incisives et sur lesquelles leur combat se porte.
Ouais. C'est ça. Malgré les interdits, ce qui vous frappe, c'est que la population... arrive à grappiller des instants de liberté, à voler tout ce qu'elle peut de liberté.
C'est une cocotte minute, en fait, et dès qu'elle peut prendre, elle le prend, mais vraiment avec passion. Ouais. Et c'est vraiment, moi j'ai, à la fois c'est assez schizophrénique, parce qu'on est dans un extérieur où les gens se regardent, et puis on va à l'intérieur des maisons, et c'est l'explosion, on danse, on chante, on rit. Les Iraniens, il y a deux populations. Dehors, à l'intérieur, et plein de manières de faire, en fait. J'ai moi-même, en fait, mis le tchador pour expérimenter, vraiment aller au bout de l'expérience.
Ouais. Vous avez hésité quand même, parce que c'était pour un mausolée qu'il fallait, que vous souhaitiez visiter, et là, il n'y avait pas le choix. Pour pouvoir le visiter, il fallait mettre un tchador. Vous avez un peu hésité jusqu'où vous allez dans les compromis avec votre liberté.
C'est ça. Déjà, dans le pays, à partir du moment où on décide d'aller en Iran, il faut accepter le compromis de mettre le voile, d'être couverte des fesses, de pas montrer les coudes. Mais j'ai hésité, forcément, parce que pour moi, c'était en contradiction avec ma pensée. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas... c'est bien d'expérimenter pour pouvoir en parler et comprendre, plutôt que juste critiquer. Oui. Je pense que quand on vit l'expérience, ça nous permet justement de se mettre à la place de l'autre.
Oui. Et de comprendre que c'est pas si simple, et que cette notion de liberté, vraiment, elle mérite d'être creusée, d'être interrogée. Vous allez faire pendant tout le reste des autres voyages. En Iran, d'ailleurs, à propos de liberté, en tout cas la première fois que vous y êtes allé, c'est pas vous qui conduisez la moto.
Non, à l'ambassade, on m'a dit que les femmes n'avaient pas le droit de conduire de moto et que c'était interdit. Mmh. Et donc, Christian est venu m'accompagner pour
Christian Clos, votre compagnon,
qui est venu du coup pour cette partie-là. Et dans un sens, c'était bien parce que ça m'a permis de vraiment mettre le point sur le fait qu'être seul ou à deux, c'est un voyage totalement différent.
Ouais.
Parce que dès que Christian était là, les gens ne s'adressaient qu'à Christian. Et par respect pour moi, par respect pour Christian, c'était normal.
Ouais.
Et que dès qu'il est parti, eh bien, les gens n'avaient, les hommes, en tout cas, n'avaient plus le choix. Il n'y avait que moi pour parler. Et ça m'a confirmé le fait que c'était vraiment important d'être seul.
On ne voyage bien pour rencontrer l'autre que quand on est seul ou... Vous iriez jusqu'à dire ça ?
Alors, je vais pas être... Non, je pense qu'à deux ou à trois, on peut rencontrer. Mais le fait d'être seul, on oblige les gens à avoir un contact direct avec soi.
Alors, des motardes, en Iran, il y en a. Elles sont peu nombreuses et ne peuvent conduire que sur des circuits à part. Mais il y en a et vous en avez rencontré une de ces motardes. Elle s'appelle Behnaz Shafi.
Je suis Behnaz Shafi, je suis la première femme pilote de motocross et de moto superbike d'Iran. Nous allons à mon terrain d'entraînement et nous allons conduire des motocross. Nous allons sauter. Dès que je suis sur ma moto, j'oublie tout. Je suis vraiment heureuse. Je suis gonflée à bloc, je me sens libre. Libre, moi, en Iran.
Vous dites liberté. C'est quoi la liberté pour vous ?
En Iran, tu sais, en public, les femmes, elles ne peuvent pas conduire de moto. Mais à chaque fois que je viens ici pour piloter ma moto, je me sens libre, je suis bien.
Un nouvel extrait de l'un de vos films, Mélusine Malander, diffusé sur la chaîne Voyage. Dans certains pays, par les motos, c'est déjà s'interroger sur les inégalités, sur la liberté.
Oui. Behnaz, c'est sûr que c'était pour elle un moyen complet de liberté. Les femmes en Iran n'ont pas le droit de conduire. En fait, elles n'ont pas le droit de passer de permis. Donc, elles ne roulent que sur des routes en terre.
Ouais.
Mais elles le font.
Ouais. Et ça n'est qu'un début.
Et ça n'est qu'un début, oui. C'est des beaux modèles.
Ouais. Alors c'est en Iran, hein, on l'a dit, que va germer ce projet de s'interroger sur la notion de liberté dans les différents pays du monde. Moyen-Orient, Asie de l'Est, Afrique, partout vous êtes allé à la rencontre de femmes et aussi d'hommes, parfois pour les interroger sur la liberté. Ça a donné lieu à des rencontres parfois légères et souriantes, parfois bouleversantes. Vous allez nous raconter vos voyages sur les voies de la liberté aux quatre coins du monde. Mélusine Malander est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Get off my back, baby. I wanna do some more. I'll take some authority.
C'était Jeanne Adède, Off My Back sur France Inter.
C'est ta moto?
Yeah.
Really? Vraiment?
Yeah. Oh my god.
Oh mon dieu.
That's my bike.
Tu conduis ça?
Yeah.
Yeah. Elle est tellement grande. Je croyais que ce n'était que pour les hommes.
Man.
Non. Je n'ai jamais vu une fille utiliser une moto comme ça. Jamais. De Java ici. C'est très long avec une moto. Je voudrais faire comme toi. Un jour.
Une rencontre en Indonésie, une jeune femme amusée et admirative devant votre moto, Mélusine Malander. C'est un extrait de votre dernier film, Les Voix de la Liberté, qui connaît un joli succès dans les festivals. Il a été primé au festival d'aventure de La Réunion. Alors, des scènes comme celle-ci, une femme qui s'émerveille devant votre moto, c'est courant dans
oui,
vos voyages?
Oui, c'est très courant, Lydia. C'est vraiment, ça sortait du cœur.
Oui.
Mais souvent, les gens... Je pense que je suis un homme. Après, il y a la surprise. Ah, c'est une femme. Et puis, c'est vrai que la moto est très, très grande, très, très lourde. Ouais. Donc, ça étonne énormément.
Ouais. Vous prévoyez certaines de vos rencontres ou elles se font comme ça dans l'improvisation?
Il y a un peu des deux. Il y a des rencontres que j'organise à l'avance parce que ça m'intéresse d'avoir des gens qui se sont posé des questions sur ce qui était peut-être pas forcément la liberté, mais en tout cas la condition des femmes dans leur pays. Mmh. Et c'est bien d'avoir un regard intérieur. Et les autres se font de manière spontanée sur la route.
Ouais. Alors, il y a une femme, je crois d'ailleurs que cette rencontre-là était improvisée, c'est en Indonésie toujours, une femme policière qui fait de la moto. Racontez-nous cette rencontre qui a l'air un peu improvisée, il faut tout faire à la hâte.
Ah oui, dingue, je la rencontre. En fait, j'étais à la station-service, mais du coup, je prenais de l'essence pour ma moto et elle est venue, elle s'est précipitée et elle parlait pas un mot d'anglais et elle me montrait sur son portable une moto et elle était très, 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 très excitée.
Ouais.
Et elle a réussi à trouver son oncle pour essayer de lui dire, voilà, j'ai envie de lui parler. Et puis moi, ça m'a... une femme, en plus, elle était policière, il y avait marqué. Je disais, ben, on pourrait se parler, on pourrait échanger. Et ça s'est fait de manière bric-à-brac dans un bar. Il y avait du bruit, on entendait la circulation, ouais. C'était affreux.
Puis il y avait le traducteur, puisqu'elle ne parle pas, elle ne parle pas anglais.
Voilà,
donc...
il fallait trouver un traducteur.
Ouais.
Et puis en même temps, il y avait aussi son oncle qui était là pour... Ouais. Faire en sorte qu'elle ne dise pas trop de bêtises, entre
oui,
guillemets.
Et... C'est ça, vous installez votre matériel rapidement à côté d'elle, il y a des hommes, son oncle, le traducteur, et qui assiste à l'interview, ça se passe comme ça.
Pour moi, la liberté, c'est...
C'est nécessaire.
C'est nécessaire, oui.
Pour vivre sa culture.
Pour vivre sa culture, tout en restant...
En restant dans le cadre.
Mais tout en restant dans le cadre.
Le cadre des lois.
Des lois, de la norme.
De la religion.
Et dans le respect de la religion.
Ils disent la même chose?
Alors c'est saisissant, hein. Vous l'interrogez sur la liberté. Et on finit ces phrases pour elle. Elle se met à répéter ce que les hommes à côté disent. Et personne ne semble voir où est le problème. À part vous, hein, qui quand même soulignez le fait que, bon, bah, du coup, c'est un peu bizarre comme interview.
Non, sa liberté à elle, c'est de conduire sa moto.
Ouais.
Et pour elle, ça n'a pas de prix. Et peu importe si elle doit dire ce qu'on lui dit, en fait. C'était pas le plus important pour elle.
Ouais. Alors, il y a d'autres exemples comme ça où vous interrogez des femmes et vous semblez qu'assez rapidement, la parole est contrainte par les hommes aux alentours?
Ça arrive, c'est assez difficile et souvent, parfois, je dois d'abord interviewer par exemple le mari ou le chef du village avant de pouvoir interviewer une femme qui m'intéresse vraiment. Oui, je dois trouver des feintes.
Ouais, c'est ça. Hein.
Parce que souvent, les hommes ne pensent pas que les femmes ont des choses intéressantes à raconter.
Ouais.
Et pensent que c'est eux qui savent et que c'est plus intéressant. Donc, on doit passer par des biais. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi des hommes qui étaient hyper excités par le projet et qui m'ont dit « Ah, mais ma maman, elle a des choses à raconter » ou « ma sœur » ou « je connais un tel ». Donc, il y a les deux. Il y a vraiment eu les deux dans le voyage.
Alors, dans ce monde dominé par les hommes, dans ces pays où les inégalités hommes-femmes semblent plus importantes encore que chez nous, comment vous faites pour voyager seul? Est-ce qu'il vous arrive, parce que c'est aussi un peu le problème quand on est une femme qui voyage seule, c'est de faire des mauvaises rencontres, c'est de susciter peut-être la convoitise d'hommes mal intentionnés. C'est arrivé?
Oui, c'est arrivé.
Et comment apparemment, ça vous a pas traumatisé, mais enfin, ça doit être difficile à vivre. Comment ça s'est passé?
C'est entre guillemets le jeu quand on est une femme qui voyage seule, et je dirais même pas forcément loin. Ouais. On doit se préparer à ça, à la rencontre qui peut mal se terminer, ou la personne qui demande des choses de manière insistante. Oui, c'est presque du harcèlement, on va dire ça.
Ouais.
Mais alors déjà, le fait d'être seule en moto, ça déblaye quand même pas mal de gens qui pourraient penser que je suis faible. Parce que le fait d'avoir cette énorme moto, les gens disent, ah, quand même, elle est un peu costaud, on va peut-être pas trop l'embêter. Après, voyager dans ces endroits-là, on est quand même le voyageur. J'ai un rôle un peu asexué. Je suis un homme, une femme, je suis l'étrangère. Et quand même, il y a souvent on doit aider l'étranger, on doit aider le voyageur, en tout cas le safari. Donc ça, c'est quand même un code d'honneur.
Ouais.
Mais évidemment, bah oui, ça arrive qu'on tombe sur... ça m'est arrivé à 4h du matin, on vient gratter à la tente. Salut, t'as une petite place pour moi? Bah non, non, pas du tout.
Ouais. Dans ces cas-là, il faut savoir être ferme.
Il faut être très 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 ferme, pas montrer qu'on a peur, absolument pas. Et souvent, quand on est dans ces endroits où les femmes disent pas non, mais en fait, ça va ralentir et la personne va se poser la question, ça se passe pas comme ça.
Ouais.
Mais il faut être extrêmement ferme, ouais. Et pas du tout laisser de quiproquo.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est fatigant. Et du coup, la nuit, moi maintenant, je campe plutôt près d'un hameau où il y a des femmes, où il y a des enfants, plutôt que toute seule. Parce que
la situation que vous décriviez avec cet homme qui, en pleine nuit, à 4h du matin, vient gratter à la porte de votre tente, ce qui devient encore plus inquiétant, c'est qu'après que vous lui ayez fait comprendre clairement... Alors ça, c'est pas filmé, hein, vous le racontez, évidemment, à ce moment-là, vous sortez pas la caméra, hein, faut pas exagérer, mais vous le racontez. L'homme s'en va, mais il revient avec deux amis en camionnette une heure ou deux après. Vous êtes au milieu de nulle part dans la Pampa quand ça se produit. À ce moment-là, on ne doit pas en mener large. Hein, quand même.
Ah non, non. Mais j'étais très, très énervée, très fatiguée. Et j'étais très fâchée.
Ouais.
Mais après coup, oui. C'est la peur, elle vient. Enfin, pour moi, la peur, elle vient le lendemain soir quand je me dis, oula, il faut que je trouve un endroit où dormir. Il ne faudrait pas que ce soit comme hier soir.
Ouais.
Et que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où les nuits se passent pas toujours de manière paisible.
Mais bon, cette histoire s'est quand même bien terminée. Vous leur avez fait comprendre que non, ça ne se passait pas comme ça et qu'ils étaient priés de s'en aller. Ils sont même partis en s'excusant.
Oui.
Faut pas embêter Mélusine Malander quand elle est sous sa tente et qu'elle veut dormir. Alors c'est un sujet personnel hein, quand même, cette histoire de liberté que vous abordez avec les différentes personnes que vous croisez. Ça veut dire qu'on ne peut pas aborder la question de but en blanc. Il y a un travail d'approche.
Il y a un travail d'approche, de compréhension, même
de mise en confiance.
De mise en confiance, parce qu'on ne va pas chez les gens les agresser avec une caméra. Donc il faut que les gens veuillent bien parler, veulent bien partager leur intimité et discuter de la liberté. On doit aussi faire attention à la traduction. Parce que déjà, même pour nous, dans notre langue française, ouais. On parle, si je devais demander aux gens dans la rue, qu'est-ce que c'est pour vous la liberté, comme ça,
ouais.
Comment?
Oui, c'est ça.
Quoi? Ouais. Et là, c'est pareil, il faut quand même amener le sujet. Et là, la moto, elle est aussi très importante pour moi, parce que quand les gens, forcément, se posent la question, je dis, regarde, moi, je suis avec ma moto, pour moi, c'est ça, je peux partir où je veux, c'est ça, là, c'est comme ça que je me sens libre. Ça permet d'engager une conversation et de se poser la question.
Mmh.
Et après, il y a la traduction, qui est aussi très importante, parce que suivant les traducteurs, le mot n'est pas toujours bien traduit. Donc il faut bien que je fasse attention à ce que le traducteur comprenne bien déjà ce que je veux dire par liberté, ce qui n'est pas forcément du temps libre ou de l'indépendance. Mmh. Donc il y a tout un travail à ce niveau-là.
Alors, exemple de réponse recueillie sur la route au fil de vos voyages à cette question, qu'est-ce que c'est pour vous la liberté ?
Freedom is
la liberté.
A long rope.
C'est une longue corde.
Yeah, but you're still tight.
Mais tu es toujours attaché.
Because sometimes
parce que parfois, quelqu'un veut te remettre à ta place.
Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous?
Tu peux nous dire ce qu'est la liberté pour toi?
La liberté? Comment ça?
Je dois lui expliquer ce qu'est la liberté.
Vous devez expliquer.
Je dois beaucoup travailler, ce n'est pas facile. Mais je suis heureuse car je suis avec ma famille.
C'est la première fois que vous entendez le mot liberté? Freedom?
Oui.
Yes?
Freedom. La liberté?
I never feel that.
Je n'ai jamais ressenti ça.
What would be freedom for you?
Ce serait quoi la liberté pour vous?
Non.
Mélusine Malander, quand vous entendez ces voix, vous vous souvenez des personnes, du contexte dans lesquels vous les avez rencontrées?
Oui. Ouais.
Vous vous souvenez de cet homme qu'on entend à la fin, au moment où vous lui posez la question, les larmes lui montent aux yeux et c'est juste un non qui sort.
Non, non, lui, il est...
Il est au Pakistan.
Il est au Pakistan, mais c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait au Pakistan. C'est quelqu'un d'accueillant, il m'a organisé une fête où 70 personnes sont venues de tout le Pakistan à moto pour venir me voir et dire « Voilà, nous, les Pakistanais, on est accueillants et on aime la France. » Et c'était génial. Et lui, avec son... Il n'a pas de passeport, il ne peut pas partir du Pakistan. Il rêve de voyager à moto. Et pour lui, oui, la liberté, il n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il se laisse complètement abattre et qu'il ne fait pas des choses. Il n'est complètement investi pour le handicap. Sa fille fait du vélo, il l'a accompagné dans le nord du Pakistan. Il est très engagé. Mais oui, c'est hyper poignant quand il dit juste non. Moi, j'attends, je suis avec la caméra.
Il n'y a plus rien qui sort. Il est trop ému par cette simple question. Et puis, il y a cette femme que vous interrogez. Vous êtes en Birmanie, au Myanmar, et elle ne connaît pas le sens du mot liberté.
Non, non, elle n'utilise pas ce mot. Ce n'est pas dans son vocabulaire.
Ouais, ça en dit
long. Oui, ça en dit long énormément sur le régime du Myanmar. C'est sûr que non, elle ne connaît pas. Ça, et ce côté très asiatique de rire, en fait, de garder la face en même temps. Et c'était très, très perturbant.
Ouais. Oui, finalement, ça installe presque de la gêne pour vous.
Oui, ça m'a remis en question. En fait. C'est ce genre de réponse qui dit « Attends, oui, c'est pas une évidence forcément pour tout le monde et c'est vrai que ça a besoin d'être expliqué. Mais oui, et ce sourire extrêmement désarmant.
Alors il y a des sourires désarmants, des histoires tragiques et puis des lueurs d'espoir dans des pays qui ont une histoire récente particulièrement douloureuse, comme au Rwanda où vous avez fait de très belles rencontres, Mélusine Malander. Vous allez nous emmener bivouaquer en Afrique dans un instant.
Oh, j'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi. S'aimer tous les deux, mais je dois partir. La nuit reste avec toi, le train n'attendra pas. Et mes larmes coulent déjà. Alors amour, à demain. Déjà. je ne vois, je ne vois, je ne vois que toi. Que tu sois, que tu sois, que tu sois, que tu sois, que tu sois pas là. Ou bien là, ou bien là, ou bien là, ou enlacé dans mes bras.
C'était Ezequiel Paillès, J'aimerais tant, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ah, je suis trempée, il pleut, mais à torrent, et le niveau de l'eau qui monte. J'ai consolidé les piquets là dehors, je suis gelée. Je suis au milieu d'une mare de dodo. C'est ça la saison des pluies en Ouganda.
Mélusine Malander, nous vous retrouvons donc sous la tente, en pleine saison des pluies, en Ouganda, un souvenir particulièrement humide,
c'est
j'imagine.
Ça. Ah oui, tout était trempé.
Ouais, ouais, ouais. C'est difficile, hein, parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit, mais la plupart du temps, vous dormez sous la tente hein,
oui,
pendant, vos oui. voyages. Alors, en Afrique, vous aviez là encore choisi des pays méconnus et plutôt inattendus.
Oui,
par quel pays vous êtes passé?
Par l'Éthiopie, le Somaliland, Djibouti, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Mmh. C'était vraiment ces endroits-là que j'avais envie de voir.
En Ouganda, donc, vous, à part le fait d'essuyer des pluies diluviennes, vous traversez de superbes réserves africaines avec des animaux sauvages. Ça donne lieu à un face-à-face avec un éléphant impressionnant.
Oui, quand on se retrouve à 20 mètres d'un éléphant, on ne fait pas la maline. Ça a été une... Je crois qu'il a été aussi surpris que moi. En fait, au début, on se dit « Ah, c'est super, on voit des antilopes qui sautent, on a l'impression d'être dans le Roi Lion.
Ouais. »
En plus, c'est très unique en Ouganda parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un guide. Je pouvais rouler toute seule avec la moto. Donc, on est dans cette savane. Ouais, on est. C'est vraiment le monde des animaux. Et puis après, oui, on rencontre l'éléphant, on se dit « Ah oui, c'est quand même des animaux sauvages. » Et toi, c'est toi l'intrus.
Ouais.
C'est leur maison. Et toi, tu fais que passer et tu dois faire attention.
Ouais. Alors évidemment, dans ce pays, en Ouganda, vous n'avez pas uniquement côtoyé la faune sauvage. Vous êtes aussi, là encore, allé à la rencontre des habitants. Et notamment, vous avez rencontré des pygmées du peuple batwa. Mmh. Là aussi, c'est une rencontre assez forte, hein, avec l'accueil, vous le dites vous-même, l'accueil c'est une sorte de danse un peu pittoresque, folklorique, mais faite avec peu d'entrain, le cœur n'y est pas vraiment, vous avez l'impression qu'ils vous jouent un triste spectacle.
Oui, c'est comme s'ils sont habitués aux touristes qui passent, et puis ils se disent « Ah bah tiens, elle sait ce qu'elle veut, on va lui faire une petite danse, ils étaient à moitié en train de boire et... ». Non, c'était très triste en fait, il y avait beaucoup de misère dedans. Mmh. C'est des gens qui ont été sortis de leur forêt, parce qu'en fait comme ils sont petits, là-bas les gens les prennent pour des enfants, ils les prennent pas du tout comme des adultes, comme des êtres humains.
Mmh.
Et en plus, les gens s'imaginent pas, par exemple camper, pour eux c'est un concept complètement inconfortable.
Mmh.
Ils n'imaginent pas qu'on puisse vouloir camper. Et alors vouloir vivre dans la forêt, c'est absolument aberrant. Donc pour eux, ils ont l'impression de leur avoir rendu service en les sortant de la forêt. Et puis en plus, sous des prétextes de protection des gorilles. Et on les a mis dans des cases, on les a posés, mais sans leur apprendre un métier, sans rien.
Alors vous lui dites au chef de ce groupe de pygmées batwa, vous lui dites « Mais je ne suis pas venu forcément regarder ce spectacle. Moi, j'ai vraiment envie de discuter avec vous de ce que vous vivez, de ce que vous êtes. » Il est un peu surpris dans un premier temps. Ah bon, ça t'intéresse vraiment ce que je vis? Et puis là, le dialogue va s'installer. La notion de liberté, pour lui, il vous dit que ça ne veut plus dire grand-chose.
Non, pour lui, il est très triste. Et il ne sait pas quoi faire parce qu'il est censé être le chef de sa tribu. Et il n'a rien à leur offrir. Il n'a pas de perspective d'avenir. Ouais. Et il est complètement déstabilisé. Et même mon traducteur, à ce moment-là, en fait, commence à comprendre en fait le problème de ces gens-là, alors qu'ils ne se l'étaient jamais posé.
Oui.
Et c'était aussi ça qui était intéressant. C'est-à-dire que dans la discussion, même lui qui est local, qui connaît ces gens-là, il s'est rendu compte en fait de la problématique de ce peuple. Et c'est vrai qu'on a pu passer un moment à discuter, à aller plus loin, et il était content parce que pour une fois, il était écouté.
Et ces derniers mots qu'il vous dit quand vous partez, on a protégé les forêts, on a protégé les grands singes, c'est une bonne chose, mais nous, qui va nous protéger ?
Oui, il est, il a l'impression de, qu'on lui a enlevé son humanité. Et c'était, oui, c'était poignant.
Ouais.
Et c'est aussi ça qui est difficile, c'est-à-dire que moi j'écoute beaucoup, j'enregistre, mais je suis très très impuissante. Alors je fais passer le message, j'essaie d'en parler, et les vidéos et les documentaires permettent de faire vivre ces histoires d'hommes et de femmes, mais c'est vrai que souvent sur place, moi ouais, on est impuissant.
Et puis vous passez par le Rwanda, autre problème, autre passé douloureux, pays aux mille collines, des paysages à couper le souffle, c'est superbe le Rwanda. Décrivez-nous un peu le Rwanda.
Ah oui, c'est vraiment le pays des mille collines. On a cette brume et puis c'est très vert, on a des plantations de thé, et on navigue sur ces pistes qui sont rouges, qui sont comme des saignées dans ces collines. Et on a le lac Tanganyika qui est d'un bleu profond, on a toutes les couleurs aussi pareil. Avec le fait d'être dans cette atmosphère un peu humide, les lumières changent tout le temps. Et c'est un très joli pays, très petit, plus petit que la Suisse, mais oui, petit pays. Mais très joli en fait, il y a une odeur aussi très particulière, humide, terre. Mais moi, j'ai adoré.
Petit pays, c'est le titre du livre de Gaëlle Faye, justement, hein, qui est très en lien avec ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide terrible que l'on sait. Vous rencontrez d'ailleurs une femme Tutsi, veuve, dont la famille a été assassinée pendant le génocide. Cette femme, paradoxalement, il s'en dégage une certaine sérénité. Elle le dit, elle a dépassé son traumatisme. Elle est impressionnante, cette femme.
Oui, c'est une très grande leçon de pardon. Elle est très très digne, elle est dans sa petite case, elle a perdu toute sa famille. Et après, beaucoup de travail sur elle-même, hein, parce que c'est comme tous les gens qui sont au Rwanda, il faut imaginer que c'est à peine 20 ans, un peu plus de 20 ans, ce génocide. Donc ils ont tous un traumatisme en eux. Et elle a travaillé dessus, elle a été muette, elle n'a pas parlé pendant des mois et des mois. Mmh. Et finalement, elle s'est mise à parler et maintenant elle aide les autres veuves à avancer, à pardonner et aller de l'avant.
Et malgré les atrocités, le malheur, dans ce pays où on n'oublie pas ce qui s'est passé, la vie et l'espoir semblent renaître, notamment avec le cas que vous donnez à l'instant, mais aussi avec ce groupe de tambourineuses que vous rencontrez, absolument génial. Qui sont ces tambourineuses ?
Alors, c'est Kiki qui a fait ce groupe de tambourineuses. À la base, le tambour, il faut bien se dire que c'est interdit aux femmes. Même toucher, même limite regarder c'est un tambour, c'était complètement tabou.
C'est bravé un interdit, hein, que des femmes se mettent à tambouriner. C'est une grande première avec ce groupe. C'est le premier à l'avoir fait au Rwanda.
Ouais, et en fait, le génocide va amener aussi ça. Ça a apporté cette part de malheur, mais aussi, ça a complètement transformé la société du Rwanda, puisque les femmes prennent le pouvoir. Les femmes commencent à hériter, elles font. C'est un des pays où il y a le plus de femmes au Parlement. Mmh. Ça a bousculé complètement la manière de faire. Et les femmes, du coup, se sont réappropriées des choses qui, normalement, leur étaient interdites. D'où les tambours.
Quand nous avons commencé à jouer du tambourin, nous nous sommes retrouvés dans un concours avec les hommes. Et nous avons remporté le premier prix. C'était bien. Ici, dans le groupe de tambourineuses, nous sommes mélangés. Avant le génocide, il y avait une séparation entre les gens. Entre les Hutus, les Tutsis ou les Twas. Maintenant, tout le monde se mélange. Ce que nous devons au Rwanda, c'est d'être des femmes exemplaires, dans le partage avec l'autre, dans l'unité et la réconciliation. Quand nous tambourinons, nous ne faisons qu'un. Nous sommes une équipe. Personne ne peut dire celle-ci est Tutsi, celle-là est Hutu. Nous sommes seulement rwandaises.
Nous sommes seulement rwandaises. Ça donne des raisons d'espérer ces tambours de ces femmes au Rwanda.
Ah, c'était une bouffée d'espoir de les voir heureuses, joyeuses et à tambouriner comme des folles et ensemble. Ouais. Et ensemble et vraiment à dire, ben voilà, on avance ensemble en tant que rwandaises.
Ça symbolise de nouveaux droits, ça symbolise une réconciliation.
Ça symbolise la paix.
Alors on l'a entendu, hein, ces voyages vous ont aussi sensibilisé à la cause écologique. Et c'est peut-être pour cette raison que dans quelques années, on pourra toujours vous croiser sur les routes du monde, mais cette fois-ci avec une moto qui avance, avec des panneaux solaires et à hydrogène.
Mon rêve.
Alors, c'est pas encore sûr?
Si, mais c'est ça. Pour moi, rien n'est sûr tant que je suis pas mes fesses sur la selle et que je suis pas partie.
Alors, décrivez-nous l'engin qui sera une sorte de prototype, hein, si j'ai bien compris.
C'est un projet de démonstrateur, en fait, d'un véhicule qui pourrait rouler comme un deux roues et qui puisse être autonome. Après, il va falloir, je pense, avoir des échecs et des réussites pour réussir à avoir ce véhicule. Mais c'est le projet.
C'est le projet. Vous savez déjà où vous irez avec votre moto à hydrogène?
Je pense qu'un tour du monde s'impose, oui, tout à fait. Après, où, je ne sais pas, mais non, c'est vraiment pour moi l'aboutissement en fait, de ma quête de liberté.
Et on peut vous suivre sur Internet?
Oui.
Vous avez l'adresse du site?
Mélusinemalender.fr.
Très bien, pour ceux qui veulent vous suivre dans vos aventures sur votre moto. Un grand merci à vous, Mélusine Malender, d'être passée par notre bivouac.
C'est avec plaisir, merci.
Les voies de la liberté, tel est le titre du livre que vient de publier Mélusine Malender aux éditions Robert Laffont.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement, de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan.
Voyage,
voyage, voyage. Chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage.
Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage.
Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage,
voyage.
Voyage, 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 voy
jamais ne revient.
C'était Aloïs Sauvage qui chantait « Voyage, voyage », une reprise de l'original de Désirless. Et c'est Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter.
Et je signale que notre invitée d'aujourd'hui, Mélusine Malander, sera au Festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle pour présenter son livre « Les voies de la liberté ». Le festival se tiendra du 9 au 15 novembre prochain avec au programme des projections, des livres, des rencontres et des expos. Nous allons mettre un lien vers le programme de ce Festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Pour réécouter cette émission et les précédentes, n'oubliez pas les podcasts. Un grand merci à vous pour les messages que vous nous laissez sur notre page Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.